Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous conduit aujourd'hui sur les traces des victimes du trafic d'êtres humains en Afrique, ceux qu'on appelle les migrants qui ont vécu l'enfer en Libye alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, et nous avons choisi de donner la parole à ceux qui s'en sont sortis. Libye, parole de survivants, un grand reportage de la rédaction Afrique de RFI avec des témoignages recueillis par Binta Diagne, Coralie Pierret, Guillaume Thibault et Léonard Vincent.
C'est un psychologue qui m'a beaucoup réconforté. Parce que avant, je n'arrivais pas à dormir. J'arrivais à fermer l'œil. Il y avait un mois comme ça, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je pensais à des choses horribles.
C'est un étudiant ordinaire sous la pluie du Nord. À l'université de Lille, où il a trouvé refuge et suit des études d'informatique, Abdoulaye, 21 ans, n'a l'air de rien. C'est peut-être seulement sa bouche sèche quand il raconte son histoire qui trahit la violence de ce qu'il a vécu. Pour Souleyman, un Ivoirien de Daloa, c'est à peu près la même chose, sauf que chez lui, c'est son débit précipité qui trahit qu'il est nerveux.
En Libye, la prison, c'est pas facile. Voilà, parce que moi, j'ai tenté 4 fois la même, hein. Ouais, il y avait 2 fois la prison. En tout cas, c'est vraiment la souffrance. Le matin, on avait droit à un demi-pain avec un bouton d'eau. On prend ça le matin, c'est juste quand le lendemain matin encore, on vient nous donner ça encore.
Pour ces deux jeunes garçons, Abdoulaye et Souleyman, l'objectif, c'était fuir. Le premier fuyait une tentative d'assassinat dans son quartier, l'incendie de sa maison par des voisins fanatiques. Le second cherchait à subvenir aux besoins de sa famille, qui vit dans la misère. Direction l'Europe, par tous les moyens. Faute de visa, tous deux tenteraient leur chance par la Libye. C'est aussi le cas d'Ibrahima, un autre jeune garçon de Daloa. Lui se souvient surtout de sa peur.
Ce qui m'a fait peur, c'est sur le désert. J'ai vu les frères maliens, guinéens, ivoiriens, etc. mourir dans le désert. Bon, cela m'a fait beaucoup peur parce que dans les pays comme l'Algérie, la Libye, nous les peaux noires, nous n'avons pas le droit d'aller à l'hôpital. Donc même si tu es malade, tu restes dans la maison. Ça fait que nous, les frères restent dans la maison. Ils meurent. Il n'y a personne. Même pour faire sortir le corps, c'est un problème. Ça m'a fait beaucoup peur. Notre sœur africaine en Libye, même si elle ne veut pas, bon, ils vont la forcer beaucoup, puisqu'elle n'a pas le choix. Souvent aussi, elles ont faim. À cause de ça, elles sont obligées d'accepter. Ce n'est pas du tout facile. Surtout pour les femmes, ce n'est pas du tout facile.
Tous les témoignages de migrants en retour de Libye sont similaires. Ils décrivent la faim, les coups, le vol, les viols. Pas dans les centres de détention, pas encore. Même sur la route, avant d'y arriver, la violence est partout. Parti d'Agadez au Niger, Abdoulaye raconte.
Nos frères qui nous font passer et nous disent que la route, c'est pas difficile, si tu payes, tu es arrivé à destination. C'est avec l'idée là qu'on met dans ta tête pour t'encourager, pour te motiver aussi. Bon, on a bougé, là aussi on avait des chauffeurs libyens qui étaient fous, qui avaient la rage, qui nous torturaient sur la route. Dans un pick-up, vous êtes au nombre de 30, série. Vous ne pouvez pas crier, il y a des uns qui s'assoient sur les autres. Nous sommes très, très, très mal serrés. Quand tu faisais du bruit, il y avait un qui venait avec un long fouet, bâton, qui te cognait quand tu cries. On criait, on s'est bagarré là-bas aussi parce qu'on était mal serrés. Moi, mon trajet, j'ai fait 12 jours avant d'arriver à la frontière libyenne.
Abrahaman, lui, a fait la route depuis l'Algérie.
Les personnes qui devraient vraiment aller à Zabrata, on était au nombre de 11. C'est là où j'ai failli vraiment laisser ma vie, parce que dans cette pick-up, c'était insoutenable. J'ai vraiment failli laisser ma vie là-bas, parce qu'on était surchargé. Et puis en plus, les Arabes, ils ont mis la musique à augmenter le volume pour ne pas au moins entendre. Et les bruits ou les cris, je ne pouvais même plus respirer même.
Il y a des rebelles qui nous ont attaqués au cours de la route. C'était vers 20h comme ça. Et ils avaient des pick-up V8 qui avaient la puissance plus que nos pick-up. On a essayé de faire la course, mais nos chauffeurs n'ont pas pu. Après, on nous a encerclé, on a tiré à l'heure des balles, on s'est arrêté, ils ont percé nos pinets. On ne pouvait pas bouger, on est resté là-bas, ils ont dû descendre. On est descendu, on nous a regroupés par terre là-bas, sur le sable. Après, il nous a dit, c'est lui qui a dit 1000 francs CFA, et il continue son trajet. Il raquette tout le monde. Après, les petits sacs là qu'on avait, chacun avait 2 kilos de achéké. Nous, on appelle ça achéké chez nous. C'est ça qu'on mangeait. Ils ont détruit ça d'abord avec nos bidons qu'on avait. Chacun avait 2 bidons de 5 litres d'eau. Et ça aussi, ils ont versé par terre.
Mais le vrai cauchemar commence quand ils sont enfermés dans les centres de détention libyens, où l'état de droit n'existe plus.
On est arrivé au niveau du périphérique de Benwali. Le chauffeur s'est arrêté, on lui a demandé pourquoi il s'est arrêté. Il nous a dit qu'on n'a pas le droit de le demander. C'était pour nous mettre dans une prison. Il nous a amenés dans une prison, c'est un cours, il y a des hangars. Moi, pendant que j'étais rentré dans la cour, je croyais que bon, peut-être on fait un petit scan. Après, l'arabe est venu avec une calache, il nous a compté tête par tête. Après, il nous a fait par des rangs de 3 comme ça, 10, 10, 10. Après, il nous a ouvert une porte d'un hangar. Je suis rentré, j'ai trouvé là-bas des gens qui ne mangeaient pas, qui étaient très, très minces, très fins. On a resté là-bas, il n'y avait pas de manger parce que moi, j'avais des biscuits dans mon sac. J'ai commencé à ouvrir mon biscuit. Tout le monde s'est jeté sur moi. Je ne savais pas, on ne faisait pas ça en prison. Si tu as le manque, tu te caches ou bien tu pars dans les chiottes, tu ouvres l'abattement pour que personne ne te voit. Si quelqu'un te voit, parce qu'il n'y a pas de manger, ils vont se jeter sur toi. C'est là que j'ai commencé à parler parce qu'il y a des Guinéens, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens. Comme ça, j'ai demandé à certains, ils ont fait là-bas combien de jours. Ils m'ont dit, oh, nous on a fait 6 mois, 7 mois, il y a certaines années. Wow. Là, j'étais complètement bouleversé. Je me suis dit, peut-être qu'il m'a revendu. Et c'était ça aussi, il m'a revendu.
Avant les liens des autres, nous avons fait 3 mois en prison. 3 mois en prison, dans la souffrance. On nous a beaucoup tabassé. Quand on te met en prison, on met courant sur toi pour que tu cries au téléphone, pour que ta maman l'attend bien. Puisque c'est une mère aussi qui l'attend. Pour son enfant, c'est forcé, même si elle n'a pas l'argent, elle est obligée de chercher pour que non, elle t'envoie l'argent pour que tu puisses sortir de la prison.
Ces 27 jours étaient insoutenables, étaient horribles. Ces 27 jours, les mots me manquent pour pouvoir qualifier vraiment ce qui s'est passé dans ces prisons parce qu'ils n'avaient pas de soins. Les gens étaient malades. On nous donnait un morceau de pain pour 24 heures. L'eau venait par accident, parce qu'on pouvait faire même 2 jours sans avoir l'eau. Imaginez-vous une centaine de personnes dans un conteneur avec la chaleur du Maghreb. Un détenu pouvait tomber malade, tu appelles ses responsables, les Arabes, là, tu les appelles pour dire qu'on a un malade ici. La personne pouvait rester là jusqu'à mourir. Ils vont venir prendre son corps pour aller le jeter. J'ai dit bien, prendre son corps pour aller le jeter. Ça s'est passé à chaque fois. Ça, c'était quotidien même. Il y avait des femmes avec nous. Quand nous avons été interceptés, ils nous ont séparés. Ils sont venus nous dire que les femmes vont être rapatriées dans leur pays, ce qui était faux. Il y a un autre baron libyen qui est venu proposer ou verser de l'argent au responsable de la prison. Quand il est venu déposer, il a payé l'argent. Lui, il a acheté toutes les femmes qui étaient là. Il avait sa propre prison. Il est parti les déposer là, les enfermer là. Et maintenant, il appelle ses amis arabes pour leur dire que j'ai des femmes à vendre. Et ils vont venir faire leurs sales besoins et lui va empocher l'argent.
Dès lors, plus aucune règle n'existe, sinon celle du commerce et de la violence. Et comme l'explique Abrahaman le Guinéen et Souleymane l'Ivoirien, que ce soit à l'intérieur ou hors de la prison, les prisonniers sont à la merci de tous ceux qui portent une arme.
Les gens sont là, ils n'ont pas d'argent. Pour pouvoir même biper tes parents au pays, tu es obligé de payer 5 dinars libyens. Qu'est-ce qui se passe? les Arabes pouvaient venir là, les Libyens, ils pouvaient venir dans ces campos, qu'on les appelle les campos, ces lieux de cantonnement. Ils disent vraiment, on cherche des gens pour pouvoir aller travailler, soit dans son jardin ou chez lui à la maison, je ne sais quoi. Donc, il y a d'autres jeunes subsahariens, ils sont là, ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé. Ils vont se mettre dans le groupe, espérant avoir un sou le soir. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller te faire travailler pendant toute la journée. Après avoir fini de travailler, tu t'attends le soir qu'il va aller te déposer là où il est parti te chercher. Et ça trouvera déjà qu'il a appelé les gens qui achètent les subsahariens. Il va leur dire que, ok, d'accord, j'ai un ou deux noirs à vendre. Ils vont discuter le prix, il va te prendre, tu ne connais pas la ville, donc il va t'envoyer et il va aller te vendre. Ils vont te torturer, les gens sont électrocutés, afin que tu puisses appeler ta famille. Partout en Libye, on vend des subsahariens, partout en Libye, on vend des subsahariens, partout. Même si on peut te voir même en ville comme ça, ils vont te kidnapper et ils vont aller te vendre. Ça se passe, ça s'est passé chaque fois à Zabrata, oui.
Pour beaucoup, la seule solution est dès lors de réussir à s'embarquer sur un bateau, malgré l'épuisement de semaines et de mois de détention. Abdoulaye le Guinéen, par exemple, a réuni assez d'argent après plusieurs mois de prison, quand un jour son passeur est venu le chercher.
Il est venu nous dire qu'on doit passer aujourd'hui. On s'est regroupé vers 16h comme ça, on nous a fait asseoir là-bas jusqu'à 19h. Il y avait une route. On s'attrapait l'un et l'autre parce qu'il y avait des voitures qui passaient avec. Et si on vous voit, certains Libyens, quand ils vous voient, ils vous arrêtent aussi. Ils vous prennent comme des prisonniers. C'est là qu'on s'est caché à Katimini. On a pu traverser la route. On était au nombre de 135. Après, on a resté là-bas au bord de l'eau jusqu'à 21h comme ça. 21h, l'arabe est venu, il a gonflé, il était sous, il avait un couteau avec ses petits qui étaient là-bas. Bon, si tu restais pas dans le rang, tu chicotais. Bon, on est resté calme. Ils ont pris le zodiac, ils ont mis sur l'eau. Ils ont dit, les femmes d'abord vont monter parce qu'il y avait 8 femmes parmi nous, avec des bébés, des enfants de 3 ans, 4 ans comme ça. Après, ils ont dit, bon, nous les hommes, le bateau était déjà sur l'eau. Ces petits sont là, te voient courir, te tacle sur le sable, te chicote aussi. On peut envoyer un couteau sur toi, on te fait un trait, on te perce. Mais c'est un jeu pour eux. J'avais des blessures au niveau des pieds, avec l'eau du sel aussi, ça me piquait. C'est là que j'ai monté, on a bougé. Il y a d'autres qui sont restés au bord. Il y avait 102 qui ont pu monter sur le 135.
Pour d'autres, la seule solution pour sauver sa vie, c'est le rapatriement ou le retour au pays natal. Par ses propres moyens, mais aussi par les programmes de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Mais si le cauchemar libyen se termine, c'est une nouvelle vie parfois bien amère qui commence. Ça a été le cas, par exemple, pour les Ivoiriens Souleymane et Ibrahima, après leur retour dans leur quartier de Daloa.
Bon, voilà, le début, c'était pas du tout facile pour nous. Voilà, parce que, ouais, voilà, et ça, voilà, donc ça critiquait beaucoup. Voilà, donc on était rejeté par les amis dans le quartier. Voilà, donc il y avait beaucoup de paroles sur nous, quoi, mais on a supporté un peu. Bon, maintenant, voilà, dans l'entourage. Bon, ça va un peu, mais pas trop.
Mon retour à la maison, c'était pas du tout facile pour moi. Puisque je suis devenu la rougeur de la famille. Pour les gens, bon, je suis maudit. Souvent, quand tu sors, quand on parle sur toi, tu rentres dans la maison, tu pleures. La seule personne qui nous soutient, c'est nos mamans. Souvent, elles sont à côté de nous. Quand elles sont matin, elles peuvent nous donner 200. 500 pour qu'on puisse manger à Tchéké. Parce que depuis que nous sommes venus, rien n'a changé du tout.
Au Sénégal, le retour des évadés d'un pays aussi dangereux que la Libye est prudemment encadré par crainte d'infiltration de djihadistes parmi les anciens prisonniers. C'était d'ailleurs le sens des explications du président sénégalais Macky Sall au micro de RFI le 14 novembre dernier. L'accueil des Sénégalais de retour doit se faire avec tact, bien sûr, mais aussi avec vigilance.
La crainte, c'est que on va les défaire en Irak, en Syrie. Ils vont se retrouver d'abord en Libye et puis ils vont descendre dans le Sahel, puisque l'Afrique va constituer le ventre mou. Dès lors qu'il y a une réaction très forte au Moyen-Orient contre ces bandes, ben, ils vont rechercher des territoires faciles. Déjà, vous voyez le Sahel avec toutes les zones de trafic de tout genre, ensuite la Somalie. Donc, si on n'a pas les réponses appropriées, fortes, évidemment, tout ce qui a été défait au Moyen-Orient va se retrouver encore sur l'espace sahélo-saharien qui va encore nous poser des problèmes. Donc, il faut une réponse globale. Il faut des réponses vraiment intégrées parce que, comme je l'ai dit, s'il y a encore un sanctuaire où ces forces peuvent se déployer, c'est toute la sécurité globale qui est menacée.
Alors, pour réduire la menace, il existe une autre solution, que les jeunes Africains ne partent pas, ou du moins que s'ils cherchent à se mettre à l'abri ou à finir des études à l'étranger, ils puissent le faire en toute sécurité, c'est-à-dire légalement. C'est ce qu'explique Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur.
C'est la perspective qu'il faut leur offrir, pour que, afin qu'ils partent dans les conditions qui sont prévues. Parce que la principale difficulté, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui décourager le départ si on ne leur offre pas au moins une perspective. Il est vrai que la migration est un phénomène qu'on ne peut pas du tout arrêter tout de suite, parce que ça remonte dans les années, ça remonte dans le temps. Pour autant que les oiseaux migrent, les hommes également vont continuer à migrer. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'immigration irrégulière, on doit l'arrêter. Ou bien on doit plutôt changer la tendance irrégulière pour qu'elle soit une tendance régulière. Et pour ça, heureusement que nos partenaires européens sont dans des bonnes dispositions. Si on prend l'exemple déjà de la France aujourd'hui, dans le cadre de la gestion des flux migratoires, il y a une bonne évolution par rapport aux demandes de visa qui sont acceptées. Et nous souhaitons que cette perspective se généralise au niveau de toutes les ambassades, afin que nous puissions dire en retour, oui, vous pouvez voyager dans les conditions qui sont prévues en partenariat avec nos partenaires européens. Parce que si aujourd'hui, l'Europe considère que les pays du Sud doivent être assignés à résidence, moins de visas pour une rentrée régulière, moins de visas pour les professionnels, moins de visas pour tout demandeur simple, ça pose un problème. Donc il faudrait qu'il soit plus flexible, que nous puissions nous agir sur le contrôle et un départ plus régulier. On est sûr que dans cette perspective, les jeunes seront beaucoup plus enclins à considérer l'immigration irrégulière comme un drame. Mais si on ferme les frontières, si la demande n'est pas accessible, il est clair qu'ils vont emprunter d'autres voies, même si on leur offre tout l'or du monde.
En attendant, pour ceux qui, contrairement à Abdoulaye le Guinéen, ne sont pas parvenus à passer en Europe, pour Souleymane, pour Ibrahima ou pour Abrahaman, la vie est reprise. Avec des cicatrices sur les bras, sur le dos, sur les mains, et des cauchemars pour des dizaines de nuits, et des dettes, de lourdes dettes pour leur famille, comme pour la maman de Souleymane, vendeuse de poissons sur le marché de Daloa.
J'étais au courant du départ de Souleymane. Il est parti tenter sa chance en Europe pour nous aider. Il avait notre bénédiction dans ce projet. Je me suis endettée pour financer son voyage. Souleymane a essayé de franchir la Méditerranée à 4 reprises. Malheureusement, cela n'a pas marché pour lui. À chaque fois qu'il appelait, je sollicitais mes amis et mes connaissances au marché pour emprunter de l'argent. Mes dettes s'élèvent à 1,5 million de francs CFA. Je misais tellement sur son arrivée en Europe. Seul ce projet aurait pu nous aider. Aujourd'hui, je suis dans la difficulté. J'ignore comment je vais rembourser cette dette.
C'était Libye, parole de survivant. Un grand reportage de Binta Diagne, Coralie Pierret, Guillaume Thibault et Léonard Vincent, réalisé par Pierre Chaffangeon. Freely, freely. Thank God Almighty, we're freely. I'm alright, 'cause you're here tonight. Thank God Almighty, everything's alright.